Monsieur Hanfertras, bonjour.
Bonjour.
Dans votre cahier économique de cette année, vous affirmez que la Centrafrique est dans la récession avec 5,8% en deçà de la projection. Quels sont les facteurs qui sous-tendent cette régression de la richesse en Centrafrique?
Il faut clarifier que les projections de récession sont des projections. C'est pour l'année 2021. Avec les données que nous disposons aujourd'hui, on prévoit que l'économie centrafricaine va entrer dans la récession. C'est après une année 2020 où il n'y avait pas de récession, mais il y avait une décélération de la croissance. On avait 0,8% de croissance l'année passée, 2020. Maintenant, en 2021, on prévoit une récession de 0,6%. Le premier facteur, ça a été le COVID-19 qu'on a déjà vécu l'année passée. Le COVID-19 peut-être n'a pas eu un impact trop fort ici en Centrafrique, pas comme des autres pays, mais l'impact global a été énorme. Deuxièmement, c'est la crise sécuritaire qui évidemment a beaucoup d'impact négatif sur l'économie.
Justement, si vous parlez de COVID-19, on va y rester un peu. Pourtant, il y a certains secteurs qui s'en sortent quand même bien malgré le contexte conjoncturel sanitaire avec le coronavirus.
Oui, évidemment. En 2020, on a vu que malgré l'impact global du COVID-19, le secteur agricole a bien tenu et c'est vraiment grâce au secteur agricole qu'on a pu éviter une récession l'année passée, mais aussi le secteur des forêts qui a bien tenu. Et c'est quand même important que les exportations du bois ont pu reprendre un peu plus qu'on avait prévu. Il y a quand même une résilience dans l'économie centrafricaine. Si on voit qu'avec une croissance de 0,8% en 2020, la RCA fait mieux que ses voisins. Et c'est quand même une donnée très importante.
Mais ce que les Centrafricains ne comprennent pas avec la résilience du secteur agricole, il y a une crise alimentaire. Et vous venez la semaine dernière de donner au moins 27 milliards au gouvernement pour essayer de pallier ce choc. Qu'est-ce qui peut justifier ce contraste entre votre rapport et la situation réelle sur le terrain?
Il ne faut pas oublier que quand on fait l'état de lieu de l'économie centrafricaine, on regarde l'économie formelle avec les données formelles. Il y a beaucoup d'informalité dans l'économie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société, dans l'économie, qu'on ne capture pas avec les données. Alors, cette situation de sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment compris dans les données qu'on a sur l'économie centrafricaine. La situation humanitaire du pays est vraiment très mauvaise. Et si on dit que le secteur agricole formel a tenu l'année passée, ça ne veut pas dire que ce secteur agricole, maintenant, aujourd'hui est capable de vraiment résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire. Il faut vraiment investir plus. Il y a beaucoup plus de potentiel dans le secteur agricole et c'est pour ça aussi qu'on vient d'approuver un projet qui permet au gouvernement centrafricain d'investir plus encore dans le secteur agricole. Beaucoup de potentialités, mais aussi encore beaucoup, beaucoup de travail pour réaliser tout ce potentiel et vraiment pallier les problèmes d'insécurité alimentaire dans notre pays.
Outre l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité physique qui mine aussi l'élan de la croissance en République centrafricaine et vous avez exploré quelques pistes dont le dialogue politique. C'est quoi la corrélation entre le dialogue et la situation réelle de l'économie en République centrafricaine?
Bon, il faut seulement regarder les données de l'économie. Si on veut voir une corrélation entre la sécurité et l'économie, c'est vraiment facile de regarder les données des dernières années. On voit qu'il y a une corrélation directe entre l'insécurité qui est cyclique ici dans le pays et la performance de l'économie. Alors, quels sont les éléments qui contribuent à une amélioration de la situation sécuritaire? Un élément, c'est vraiment un dialogue, une normalisation d'un climat politique. On peut discuter de toutes les choses avec tout le monde. C'est quelque chose qui n'est pas en contraste avec la lutte contre l'impunité, évidemment pas. Ce n'est pas la Banque mondiale de dire avec qui il faut dialoguer pour résoudre un problème spécifique. Nous parlons d'un climat politique qui est participatif, où tous les acteurs de la société peuvent participer et vraiment mettre leur grief sur la table et prendre ça comme une analyse commune pour avancer et décider où le gouvernement va investir ou où le gouvernement va chercher les fonds des partenaires. C'est ça vraiment de ce qu'on parle. Ça, c'est une caractéristique d'une société où il y a moins d'insécurité. Et c'est vraiment le lien direct entre l'insécurité et l'économie. Bon, ça, on a vu tout le monde et tous les Centrafricains ont vécu ça dans leur propre peau.
Si on considère ce cahier économique comme un diagnostic qui fait l'état de lieu de la santé de l'économie centrafricaine, quelle peut être la conclusion pour la projection de l'année 2022 par exemple? Est-ce que le pays peut ressortir de la récession pour aller vers la croissance ou la récession peut aller jusqu'à 2022?
Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, une condition qui est très importante et qui n'est pas sous le contrôle du gouvernement centrafricain, c'est les impacts globaux de COVID-19. Ça, c'est certainement un élément qui peut avoir une influence importante sur comment l'économie va se comporter. Deuxièmement, c'est la sécurité. Si on se trouve dans quelques mois dans une situation où la confiance de la population revient, qu'ils ne doivent pas, la première préoccupation ne doit plus être leur propre sécurité, ils vont pouvoir se dédier à des autres choses. Alors ça, c'est un élément très important. Il faut trouver une manière d'arrêter la situation d'insécurité et le conflit. C'est une condition essentielle pour revenir à la croissance. Puis, il y a beaucoup d'autres éléments. La bonne gouvernance et la bonne politique. Il y a des éléments et des moments très importants pour le gouvernement, par exemple. Ils sont en train de développer un code minier. On peut le faire d'une manière. Le code minier peut apporter beaucoup de richesses à la population et au pays et aussi à l'État. Si on le fait d'une bonne manière, dans des conditions de sécurité, le pays pourra décoller avec son économie sans problème.
Si nous considérons la proposition fondamentale de la Banque mondiale, c'est que le gouvernement aujourd'hui doit investir dans le capital humain. Or, ces 10 dernières années, tout l'investissement de la banque ou l'appui de la banque à la République centrafricaine sont beaucoup plus orientés vers ce secteur. Est-ce aujourd'hui un bilan d'échec de toute l'aide que la communauté financière internationale apporte au gouvernement pour investir dans ce capital humain?
C'est important de comprendre pourquoi on dit investir dans le capital humain. La situation démographique de la Centrafrique est telle que dans les prochaines années, mais on parle maintenant de 30 ans, il y aura une augmentation des jeunes qui vont entrer dans le marché laboral. Et c'est ce qu'on appelle l'opportunité d'une dividende démographique. Quand il y a de plus en plus de gens qui travaillent, qui peuvent être productifs, ça peut aider à accélérer l'économie. C'est une situation démographique dans laquelle le Centrafrique se trouve et on le prévoit maintenant pour dans 10 années, 15 années, 20 années. Alors, ces gens-là qui vont entrer dans le marché laboral dans 15 ans, quand ils sont éduqués? Ils sont éduqués maintenant. Quand est-ce qu'on détermine leur situation de santé? C'est maintenant, parce qu'ils sont nés maintenant, ils vont aller à l'école maintenant. C'est pour ça qu'on dit que les investissements du gouvernement dans les secteurs sociaux, il faut les faire maintenant et on voit systématiquement que si on compare avec des autres pays qui sont comparables, que les investissements du gouvernement sont moins que les autres pays. Et ça, c'est la deuxième partie de votre question. Les financements des bailleurs ne peuvent jamais remplacer les investissements du gouvernement. C'est impossible parce que les bailleurs, nous finançons des investissements. Par exemple, construction de salles de classe, c'est en train d'être fait avec les investissements des bailleurs. Les formations des professeurs, c'est en train d'être fait avec les fonds des bailleurs. Mais pour vraiment, par exemple, dans le secteur de l'éducation, pour rester dans ce secteur, il faut avoir plus d'enseignants. On a calculé qu'il faut 16 000 professeurs additionnels pour arriver à un ratio normal, acceptable, entre étudiants et professeurs. Où est-ce qu'on va trouver les 16 000 enseignants? Ça, c'est sur le budget de l'État, parce que ce sont des coûts récurrents. Les bailleurs ne peuvent pas payer les salaires de professeurs. Alors, ce sont des choix que le gouvernement doit faire. Il faut libérer une proportion plus grande du budget pour pouvoir commencer à recruter ces enseignants qui vont populer, qui vont travailler dans les salles de classe qui peuvent être construites avec les investissements des bailleurs.
Monsieur Hanfertras, je vous remercie.
Merci beaucoup.